RFI, grand reportage.
Annie Gasnier.
Quand il revient avec un sanglier ou un singe sur l'épaule, Nemro chante pour prévenir sa femme et ses enfants que la chasse a été bonne. Dans la réserve Mekragnoktire de 5 millions d'hectares, 50 000 kilomètres de forêt amazonienne dans l'état du Pará, les Indiens Kubenkokre du peuple guerrier Kayapo trouvent toujours de quoi se nourrir. Sangliers, singes, mais aussi tortues, jaboutis, tatous, rongeurs, en plus des fruits et des oiseaux dont les plumes servent aux parures pour les fêtes traditionnelles comme celle de l'initiation. La forêt est aussi leur maison et nous suivons Nemro.
Quand je suis dans la forêt, que je marche ici, je suis content, je me sens heureux. Mon père, quand il m'emmenait avec lui, il m'apprenait à abattre l'arbre où il y avait du miel. Il chassait en regardant toujours vers le haut des arbres, me montrait les herbes pour servir de remède. Il me montrait aussi comment creuser un trou pour attraper le tatou. Je me suis déjà perdu deux fois, deux jours, et j'ai souffert tout seul. J'entendais que le chant des oiseaux et le cri des singes. Je marchais sans cesse pour trouver mon chemin. Bon, perdu, j'ai juste bu de l'eau et j'ai mangé un cœur de palmier. Autour de nous ici, il y a plein de choses. Par exemple, ce kumaru, un arbre dont on mange les graines dans le fruit. Il y a le latex, du caoutchouc.
C'est une flèche.
Et à quoi vous servent vos flèches?
Ces flèches, c'est pour me défendre en forêt, mais aussi pour chasser un sanglier, un chevreuil, un singe ou le faisan moutoum. Mais je me sers plus des flèches pour pêcher. Je prends aussi mon fusil, mais les cartouches à la fin, je n'en ai pas assez, ça s'épuise.
Avant, les Kubenkokre vivaient dans les bois, au milieu de l'actuelle réserve Mekragnoktire, un lieu abandonné pour se rapprocher de la rivière Ilili. 900 personnes habitent l'Aldeia, un village de 45 maisons en paille et en torchis, construites en rond à l'ombre des manguiers. Le chef le plus respecté du village, le cacique Kadjuri, se souvient de son enfance quand l'homme blanc et ses destructions étaient encore loin.
Quand j'étais petit, je marchais beaucoup dans cette forêt, avec mon père, avec ma mère. Mais maintenant, j'ai vieilli et la forêt est différente. Avant, la forêt était plus épaisse et il y avait beaucoup plus d'animaux à chasser. Aujourd'hui, la tribu s'est déplacée. On a quitté l'ancien village pour cet endroit ici, au bord de la rivière. Et il y a moins de bêtes à chasser. Et avant, dans la rivière, il y avait beaucoup plus de poissons que maintenant. Moi, je crois que les Garimpeiros, les chercheurs d'or, ont lancé leur mercure dans la rivière. Et voilà, avant, il y avait vraiment plus de poissons.
Le poisson est consommé presque quotidiennement. Et comme il n'y a aucun moyen de conserver la nourriture dans la chaleur équatoriale, les hommes partent pêcher pratiquement chaque jour avec leurs flèches et du timbo, un poison qui permet de piéger plus facilement les proies. La rivière est aussi une vaste salle de bain où tout le village plonge plusieurs fois par jour, grands et petits, avec leurs savonnettes. Et puis, c'est la source d'eau potable que les femmes puisent dans des bidons. Si les hommes pêchent et chassent, les femmes font le reste et des tâches souvent épuisantes. Dans les proches clairières qui servent aux plantations, elles ramassent du manioc, elles cueillent le maïs, l'açaï, fruit d'un palmier, et puis elles portent des bûches dans des paniers pesants sur le dos et équilibrés par une lanière posée sur le front. Le feu pour cuisiner est allumé dans l'ombre des huttes, ce qui provoque des problèmes de santé chroniques, a remarqué Nice Santana, infirmière du poste de santé de la Fondation nationale gouvernementale, la FUNASA.
Quand on est arrivé ici, je suis à peu près 20 jours et j'avais beaucoup de problèmes de dyspnée.
Quand je suis arrivé ici, il y a une vingtaine de jours, il y avait beaucoup de problèmes respiratoires. On savait que le feu était allumé à l'intérieur des maisons, alors on est allé sur place. On a vu que le hamac de l'enfant était près du brasier et on a conseillé à la mère d'éloigner le hamac pour que l'enfant ne respire pas autant de fumée. Et ça vaut pour les adultes et les personnes âgées.
as ervas caseiras, como eles dizem, né, que os pajés eles usam.
Les herbes du jardin, comme ils disent, que les pajés, leurs sorciers, utilisent, je ne les connais pas. Avec nos médicaments de blanc, les chimiques comme les antibiotiques, il n'y a pas d'interférence avec leurs remèdes. Mais si quelqu'un est malade et que le pajé s'en occupe, on s'approche et on discute avec lui d'abord. Et s'il est d'accord que l'on administre nos médicaments, on le fait. Sinon, on ne fait rien car c'est leur culture et on n'interfère pas.
Si ele não quiser interferência, a gente não pode interferir, porque isso vem da cultura.
É, Rodrigo.
Oi.
E a senhor, qual é o médico que ele vai tomar? Ele está com tosse, dispneia.
À la lisière du village, le poste de santé est un lieu fréquenté avant tout par les mamans, parfois si jeunes. Chez les Kayapo, une jeune fille a son premier enfant vers 15 ans et elle en aura beaucoup, souvent 6 ou 7.
Et paracétamol, 30 gouttes.
Pas loin se trouve l'école du village. Une grande hutte accueille chaque semaine près de 500 inscrits, des petits et des adultes. Séparément, hommes et femmes apprennent le portugais qu'ils dominent encore très peu et ils découvrent le Brésil, son étendue et son organisation. L'institutrice Antonia Jiménez travaille avec les Kayapo depuis 6 ans. Cette timide quinquagénaire ne retourne dans sa famille à 216 km à vol d'oiseau qu'à la fin de chaque semestre. Elle ne sait pas nager, mais affronte 4 jours de barque sur la rivière, emmenée par les Indiens. Respectueuse des Kayapo, Antonia parle leur langue et elle adore ses élèves qu'elle n'a jamais entendus se disputer. Elle se sent adoptée comme institutrice. Et comme femme blanche.
Meu papel é passar o português, o conhecimento do branco.
Mon rôle, c'est de leur enseigner le portugais et les connaissances des blancs pour qu'ils puissent comparer leur culture à d'autres cultures, pour les rendre plus forts. J'ai une profonde admiration pour la population indigène, parce qu'ici, il n'y a pas de division. Ici, nous sommes tous égaux. Leur confiance est sincère. Leur manière de raisonner est très pure.
Verdadeira. O pensamento deles é muito puro. Em 2002,
en 2002, des Blancs sont entrés dans la réserve Metuti où je travaillais alors. Et ce n'étaient pas des touristes perdus, ils ne se promenaient pas. Ils attaquaient la nature, ils abattaient des animaux, ils polluaient l'eau. Et j'ai été très inquiète un jour d'école avec les enfants, quand tous les guerriers se sont préparés, qu'ils ont peint leur corps avec du Jenipabu, et qu'ils se sont tous réunis dans la maison du guerrier avant de partir en canoë. J'étais préoccupée car je pensais, ça peut bien se terminer ou très mal.
Eu fiquei muito preocupada, pensando, pode terminar bem, como branco pensasse bastante.
Les hommes blancs doivent bien réfléchir avant d'attaquer les réserves indiennes, parce que les Indiens ne pensent jamais à attaquer ce qui appartient aux blancs. Et là, il y avait beaucoup de pères de famille qui allaient à leur poursuite, pour défendre leur territoire. Car l'Indien est le véritable propriétaire du Brésil.
Que o índio é o verdadeiro dono do Brasil.
Obligé par la Constitution de 1988 qui a accordé des droits spécifiques aux populations indigènes, l'État a conçu des programmes éducatifs adaptés, car 450 000 Amérindiens vivent encore en tribu en 2007. De tradition orale, les 180 langues survivantes sont peu à peu transcrites, écrites phonétiquement, par des universitaires et des Indiens. Au village, 4 Indiens sont instituteurs et ils enseignent en alternance avec Antonia. Dans leur langue maternelle, ils perpétuent la mémoire des Kayapo. Bepoyo, le fils du cacique Kajuri, est instituteur.
Dans la salle de cours, j'ai appris l'histoire ancienne du peuple Kayapo que les plus vieux nous ont raconté lors des cours des professeurs indigènes. C'est ça que je repasse à mes élèves. Je leur raconte les Kayapo. Avant, ils ne s'arrêtaient pas, ils se déplaçaient. Alors que nous, on a une tribu fixe, on vit ici, on cultive la terre, on construit des maisons, on reste ici. Alors qu'avant, ils marchaient et faisaient les campements. Les vieux nous ont aussi raconté le premier contact dans l'ancien village Mekranioti. Le cacique Yobao m'a raconté qu'il vivait dans la forêt et ne savait pas que l'homme blanc existait. Et c'est le cacique Bepko Goti qui a eu le premier contact, amical. C'est moi qui ai écrit ce récit du contact entre blanc et Kayapo.
Eu mesmo que eu escrevi esse primeiro contato do branco e o
Ces instituteurs, comme les aides-soignants indiens, ont des salaires déjà conséquents, équivalents à 300 euros. Une somme que les hommes dépensent avec frénésie pour eux ou leurs proches, lorsqu'ils vont parfois en ville. Des achats
pas toujours indispensable, reconnaît Bebkui, âgé de 24 ans.
L'année dernière, j'ai étudié dans la ville de Collider, mais maintenant je suis ici comme instituteur. Et mon salaire est de 752 réals par mois. J'aime bien la ville, il y a plein de choses à acheter, plein de vêtements. Pour acheter un poste, pour écouter de la musique et d'autres trucs. Mais en ville, on dépense beaucoup. Ici, à la tribu, on ne paye pas pour manger, c'est gratuit.
La tribu Kubenkokre vit encore un quotidien très authentique, loin des villes et des blancs, sans électricité ni eau courante. Mais les contacts établis depuis une quarantaine d'années ont créé des besoins. Des shorts, des robes et des tongs pour des Indiens qui ont abandonné la nudité de leur corps peint. Des cartouches et des hameçons pour se nourrir. Des piles pour les lampes de poche et la radio. Et même du diesel pour le groupe électrogène qui parfois sert à regarder en groupe des DVD.
Un reporter spécial d'aujourd'hui va montrer la guerre moderne des Kayapós.
Sous le manguier, le silence face à un petit écran. Fascinés par l'image, une centaine d'enfants sont assis au premier rang, les femmes et leurs bébés derrière, les hommes debout. Ce soir-là, sur leur télé, un film japonais de samouraï, doublé en portugais, rapidement remplacé par un documentaire sur les Kayapos, bien plus captivant. Vous l'aurez compris, les Indiens ont de plus en plus besoin d'argent. Et la Fondation Nationale de l'Indien, la FUNAI, chargée de les protéger, n'y pourvoit pas au nom du respect d'une vie traditionnelle. Mais l'artisanat, quelques paniers ou des colliers, n'y pourvoit pas non plus. Il y a une dizaine d'années, les Kubenkokre avaient vendu leur âme au diable en laissant entrer sur leur réserve des chercheurs d'or et des coupeurs de bois d'acajou. Les ravages du travail difficile, de l'alcool et autres méfaits de la cohabitation avec les Blancs ont conduit les autorités brésiliennes à interdire ces commerces inéquitables. Et les Indiens ont imaginé d'autres activités pour assurer leur autonomie financière. Cette fois, en respectant la nature, des projets maintes fois évoqués le soir dans l'ombre de la maison du guerrier, au centre de la tribu où se retrouvent les hommes, une assemblée permanente où se prennent les décisions. Le cacique Itumti est responsable du projet d'exploitation de la noix du Para et il explique qu'il s'agit d'extraire l'huile de cette noix abondante, fruit d'immenses châtaigniers de la forêt amazonienne. Une huile rare mais recherchée, pouvant être consommée dans les salades ou la parfumerie. Les châtaigniers sont de plus en plus victimes de la déforestation, mais ils sont nombreux dans la réserve et donneraient du travail, car l'huile mobilise beaucoup de main-d'œuvre. Financé par des fonds internationaux, voici la petite fabrique d'huile que nous font visiter Itumti et son cousin lusophone, Ikakoro.
Notre fabrique, nous avons un appareil de prensa.
Dans la fabrique ici, on a le pressoir pour écraser les noix et obtenir l'huile. Ça, c'est la machine pour la filtrer avant de la mettre en bidon. Avec ces appareils, on a produit une huile propre jusqu'à 50 litres par jour. De la forêt, on rapporte des paniers de 60 kilos de noix déjà cassées et on les laisse bien sécher avant de faire l'huile.
95 travailleurs. La gente junto trabalha, lutamos.
J'ai fait travailler 95 personnes et on a bataillé ensemble. Mais cette année, en 2007, on n'a rien fait parce que je suis inquiet pour notre huile de 2006. Il y a 950 litres entreposés dans un hangar de la FUNAI à Collider, invendu. En 2005, on avait vendu 1500 litres à l'ONG Amigos da Terra. Et nous, on voulait continuer à vendre. C'est une bonne idée pour la tribu. Il n'y a pas de dispute, pas de problème. Et les noix ne s'arrêteront jamais, c'est naturel. Et on peut faire de l'huile de noix, ramasser du miel, de l'huile, de copaïba, préparer des plantes d'acajou.
Dans leur aldeia, tous attendent désespérément des acheteurs, mais très éloignés des grandes villes, des associations et surtout peu préparés aux démarches. Les Indiens ne trouvent pas preneur. Amis des Kubenkokre depuis une quinzaine d'années, Eduardo et Renata Leroux ont créé l'association Mebenkokre pour aider la tribu, mais ce couple de franco-brésiliens qui réside en France n'a pas trouvé de financement à son projet. Eduardo Leroux.
L'exemple qu'ils ont, leur paramètre des blancs qui les entourent, ça veut dire soit funai, soit garimpeiro, soit madeireiro, et les gens, les blancs qui habitent dans ces villes satellites autour de toutes leurs réserves sont des gens qui, grande partie, ont du mépris pour eux. Ils ont un regard tout simplement raciste. L'Indien, il est vagabond. L'Indien maltraite les enfants. L'Indien, c'est un fainéant. Et ça, c'est pas vrai du tout. Et donc, un Indien, il arrive en ville, ils ont des très beaux cheveux, par exemple. Et tout de suite, ils se sentent discriminés en ville. Les gens, ils se mettent à rire d'eux. La première chose que l'Indien fait, pour pas être aussi remarqué, c'est de couper leurs cheveux. C'est vrai qu'il y a quand même des gens qui s'approchent, essaient de comprendre.
Et vous, ce que vous aimeriez qu'ils aient finalement, c'est une autonomie pour gérer autant leur quotidien, leur culture, que finalement leurs affaires, vendre leurs choses.
Tout à fait. Par exemple, ils ont leurs produits qui sont ultra bio, qui viennent directement de la forêt. Ça, ça fait déjà un revenu très important, parce qu'il faut le savoir, ils ont des lampes, ils ont besoin de batteries, ils ont besoin d'une radio, ils ont besoin de bateaux pour se déplacer, des hameçons. Ils chassent encore un peu avec l'arc-flèche, mais ils chassent plutôt avec des armes. Mais c'est pour leurs besoins. Un Indien, il ne va jamais prendre de la nature 10 kilos de poisson s'il a besoin que des 5. Ils ont une intelligence, une éducation entre eux remarquable. Les sens de communauté, vous pouvez voir quand un voisin, il a eu une mauvaise journée de pêche ou de chasse, tout de suite son voisin à côté va lui donner. Et ça, on ne voit plus du tout ailleurs. Et ici, c'est vivant. Et aussi, que si jamais ils ont une aide financière, qu'ils puissent savoir administrer ses biens. Il faut qu'ils aillent apprendre comment on répare un moteur, comment on répare une radio. Donc, Renate et moi, on essaye d'attirer l'attention, c'est ça qu'on essaye de faire.
Membres du peuple Kayapo, les Kubenkokre, ont participé à la croisade menée par le cacique Raoni, venu en Europe en 1989, accompagné du chanteur anglais Sting. L'argent alors récolté a permis de régulariser définitivement les réserves Kayapo en 1992. Mais les Kubenkokre espéraient d'autres bénéfices qui ne sont jamais venus. Ils voudraient assurer eux-mêmes, en parallèle de la police fédérale, la surveillance de leurs réserves car les Blancs se rapprochent. La route BR-163 sera bientôt goudronnée pour écouler le soja des gros fermiers du Mato Grosso vers le port sur l'Amazone de Santarém. Le goudron à 58 km de leur territoire et ils craignent des incursions dévastatrices. Mais pour surveiller, il faut des canoës, des moteurs, des radios et un véhicule tout-terrain. Même s'ils ne réalisent pas tous que la civilisation occidentale les cerne, les Indiens se méfient de l'homme blanc, comme en témoignent ces propos du cacique Kajuri.
Je me souviens avoir moi-même entendu mon arrière-grand-père me dire « L'homme blanc veut en finir avec les Indiens. J'ai très peur que l'homme blanc entre sur notre territoire. Je ne veux plus voir entrer des pêcheurs, des chercheurs d'or, des coupeurs de bois. On ne doit pas vendre nos terres, je veux les préserver. Notre territoire a déjà été démarqué et enregistré. Et je pense que si les jeunes comme mon fils étudient, ils vont préserver le territoire. Aujourd'hui, la FUNAI et la FUNASA nous aident. On nous soigne à la ville, mais les chercheurs d'or et les coupeurs de bois, eux, ils ne nous aident pas, et ça m'inquiète, même s'ils n'ont plus le droit de rentrer dans notre réserve.
Ainsi s'achève le voyage dans la tribu Kubenkokre, très accueillante et si désireuse de témoigner de son existence, de sa culture et de ses besoins dans un petit coin de la forêt amazonienne encore préservée. C'était Grand Reportage par Annie Gasnier, à la réalisation Marc Minatel.
Yeah, ura chama chamina, ura chama chamina, ura chama chamina, hey, hey.